Bonjour mes frères et mes sœurs. Vous connaissez-vous? Socrate a dit « Connais-toi toi-même ». Cette phrase, cette instruction, ce conseil est très important pour chacun de nous, car nous avons besoin de nous connaître. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous? Qu'est-ce que Dieu attend de la part de chacun de nous? Pourquoi avons-nous tellement de doutes en ce bas monde? Pourquoi nos sentiments, je dirais, d'adversité envers notre prochain parfois? Autrement dit, nous avons des pensées qui ne sont pas toujours justes, pas toujours bonnes. Pourquoi? Je pense que la plupart d'entre nous, nous ne savons pas, mais nous ne nous connaissons pas. Et c'est vrai. Voilà pourquoi Socrate avait raison lorsqu'il a dit « Connais-toi toi-même ». La racine de vos sentiments, la raison pour laquelle vous vous fâchez, la raison pour laquelle vous n'entendez pas avec votre voisin, je dirais même la raison pour laquelle, vous êtes les esclaves de vos sentiments humains. Mais sont-ce vraiment des sentiments humains? Pourquoi ces sentiments humains existent-ils? Rendez-vous compte que nous sommes tous influencés d'une façon ou d'une autre par Satan le diable. Eh oui, Satan est à l'origine même de nos doutes. Il a commencé dès le commencement à faire douter l'homme, le premier couple de Dieu, de la vérité. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous sommes influencés directement ou indirectement par Satan. Voilà pourquoi, je répète, nous avons des idées parfois hostiles, des idées parfois étranges, des idées parfois, je dirais même, tout à fait des idées que nous ne voulions pas avoir. Eh bien, à l'origine, il y a cet être que nous appelons Satan le diable. Eh bien, je vais vous en parler aujourd'hui, de cet être-là, et que la façon dont il influence sur nous, dont il fait les choses, et la plupart du temps, les gens ne s'en rendent pas compte. Non, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une force en ce bas monde qui les influence. Vous savez, ce qui est encore le plus étrange, c'est que la grande partie de l'humanité ne croit pas à l'existence de Satan. Ou bien, si les gens croient que Satan existe, ils ont une drôle de façon d'exprimer leurs idées, leurs pensées à cet égard. Ce que le monde appelle cet être comme Satan le diable, parfois même d'une façon sarcastique, est tout à fait contraire de la façon dont la Bible parle de Satan dans la Bible. Eh oui, autrement dit, les gens ne se rendent pas compte. La première chose d'abord que les gens ne se rendent pas compte, c'est que, voyez-vous, ce monde, à l'heure actuelle, est sous la domination de Satan le diable. Oui, vous m'avez entendu. Ce monde est sous la domination de Satan le diable. Notez ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, chapitre 4, versets 3 à 4. Paul écrit, si notre évangile est encore voilé, imaginez. Autrement dit, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du retour du Christ. Et Paul dit, si notre évangile est voilé, et c'est vrai, combien de gens aujourd'hui parlent de cet évangile, de la bonne nouvelle du retour du Christ? Pas beaucoup, non, pas beaucoup. Parce que les gens ne croient pas vraiment à la Bible, parce que les gens n'étudient pas la Bible, et les gens se laissent confondre par les astuces de Satan, justement. Car Satan ne veut pas que cette bonne nouvelle soit prêchée aujourd'hui. Pas du tout. Satan veut cacher la bonne nouvelle du retour du Christ. Voilà pourquoi Paul dit, notre évangile est encore voilé. Vous savez, vous mettez une voile, les gens ne voient pas, vous ne voyez pas. Donc, il dit, il est voilé pour ceux qui périssent. Ça, c'est étrange plutôt. Pour ceux qui périssent. Autrement dit, si vous ne croyez pas en Dieu, si vous transgressez des lois divines, la volonté divine, si volontairement, ça c'est important, si volontairement vous vous tournez contre Dieu, vous êtes sur la voie de la perdition. Voilà pourquoi Paul a dit ceux qui périssent. Laissez-moi expliquer encore. Dieu ne veut pas que les gens soient perdus ou bien que les gens périssent. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais ceux qui, après avoir connu la vérité, ne veulent pas se repentir, ne veulent pas suivre la voie divine, ces gens-là sont sur la voie de la perdition. Donc, voilà pourquoi Paul a dit, ceux donc, qui ont les yeux fermés, pour qui la vérité donc, est cachée en quelque sorte, est voilée pour ceux qui périssent. Mais je répète, Dieu veut que tous connaissent la vérité, tous arrivent à cette compréhension et qu'ils se dirigent vers le salut. Je continue. Verset 4, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules, voilà. Voyez-vous, incrédules, ce sont ceux qui ne croient pas. Mais vous direz, vous croyez, d'accord, vous croyez à notre façon, vous croyez à la façon dont Satan a séduit ce monde. Donc, pour sortir de cette incrédulité, vous devez absolument vous tourner vers la Bible, l'étudier et rejeter tout ce qui a été, tout ce que vous avez appris peut-être, et qui était contraire à la révélation faite dans la Bible. Voilà pourquoi Paul dit « pour les incrédules ». Et ensuite, il explique « dont le Dieu de ce siècle ». Remarquez, le Dieu de ce siècle, donc il y a un Dieu en ce bas monde. Je ne parle pas maintenant du Christ, je ne parle pas maintenant de Dieu le Père, non. Il y a quelqu'un qui dirige ce monde, un administrateur pour ainsi dire. Et ce Dieu de ce siècle-là, ce Dieu de ce siècle est Satan le diable. Notez-le. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Voyez-vous, c'est clair. La Bible déclare que Satan a aveuglé l'intelligence, a caché la vérité aux yeux des hommes, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire du Christ. Voyez-vous, rien que déjà cette phrase, le verset 4, vous explique que Satan a voilé l'intelligence ou l'esprit des gens. Les gens, donc, sont aveuglés, ne voient pas, ne comprennent pas. Voilà pourquoi, pour eux, l'évangile du Christ a été remplacé par des évangiles tout à fait erronés et faux. C'est ce que vous entendez aujourd'hui. Vous entendez toutes sortes d'évangiles. En vous disant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Le Christ a payé pour vos péchés. Allez, transgressez les lois. L'Ancien Testament n'est plus valable, ainsi de suite. Ça, c'est donc les mensonges que nous prononçons, auxquels nous croyons, sous l'influence de Satan. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, le Dieu de ce siècle, donc Satan, a aveuglé l'intelligence. Vous direz, mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu aveugle l'intelligence des hommes et il ne veut pas que nous soyons sauvés? Si! Là, c'est une autre histoire, mais le fait est qu'aujourd'hui n'est pas le seul jour du salut. Dieu a décidé dans la Bible, et il nous a révélé dans la Bible, que le moment où il va sauver le monde, l'humanité entière d'une façon générale, c'est lorsque Satan le diable sera enchaîné. Mais ça, ce n'est pas mon sujet. Donc revenons maintenant à mon sujet. C'est que pour le moment, Satan est encore libre de séduire les gens. Il fait ce qu'il veut et il arrive à faire un bon travail à sa façon. Satan a aveuglé les gens, l'esprit des gens. Et aujourd'hui, vous entendez donc toutes sortes de vérités qui ne sont pas du tout vérités. Alors, vous direz donc, nous sommes sous l'influence de Satan, nous sommes en prise, nous sommes des prisonniers. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas prisonniers. Car une chose, je répète, Satan ne peut absolument rien faire à moins que Dieu ne le lui permette. Comprenez bien. Ne craignez jamais cet être. C'est un être plus puissant que nous, pour le moment, d'accord. Il a beaucoup de pouvoir. C'est un être spirituel. Mais nous n'avons pas besoin de le craindre, car Satan ne peut absolument rien faire sans la permission et la connaissance de Dieu. Ça, c'est votre base. Donc, si Dieu est avec moi, si je sais que Dieu me défend, pourquoi craindrais-je? Du reste, la plupart du temps, la racine de vos doutes, c'est justement ce sont des sentiments qui sont en vous, influencés par Satan. Et ça vous fait croire que Satan peut agir avec force, alors qu'il ne peut pas agir avec force si vous êtes sous la protection divine. Et ça, c'est important, mes frères et mes sœurs. Nous savons ces choses. Mais la plupart du temps, là, au sein de l'Église, vous savez fort bien, nous continuons à douter, nous continuons à dire pourquoi. Un malheur arrive, vous dites, pourquoi ce malheur arrive-t-il? Ou bien vous êtes accidenté, ou bien vous perdez un travail, ou bien quelqu'un de chair meurt. Vous dites, pourquoi? Ces doutes-là vous font penser que Dieu n'est pas avec vous, et ce sont ces doutes sur lesquels Satan met l'accent afin de vous faire douter de Dieu et de vous faire croire au mensonge. C'est étrange car, voyez-vous, à travers la Bible, lorsque vous étudiez la Bible, vous verrez que Dieu veut que nous comprenions sa vérité. Mais à travers la Bible, nous pouvons se voir que Satan veut vous cacher ses vérités. Et lorsque nous, en tant qu'êtres humains, nous croyons en Dieu, nous savons que Dieu nous aide, nous savons que Dieu, avant tout, est toujours prêt à nous aider afin que nous puissions entrer dans son royaume. Alors vous comprendrez pourquoi il y a une sorte, je dirais, de force que Dieu a permis à Satan d'avoir pour séduire l'humanité. Notez encore ce que l'apôtre Pierre, cette fois-ci, dit en ce qui concerne ce dont je vous parle. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Il dit, de même dit-il, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et dit-il tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Là, c'est déjà le sens, je dirais, important, je dirais même la raison pour laquelle la plupart des gens succombent aux astuces de Satan à cause de notre nature humaine. Nous sommes orgueilleux, nous sommes vaniteux. Orgueil, c'est un outil dont vous vous servez pour vous défendre, c'est un outil vain, ridicule même. Vous ne pouvez pas, vous ne devez jamais vous défendre avec l'orgueil, pas du tout. Tout d'abord, si vous avez tort dans quelque chose, admettez que vous avez tort. Si vous devez vous protéger maintenant, protégez-vous par la vérité en admettant vos fautes, en voulant changer et non pas en discutant, et non pas en présentant des excuses pour chatouiller pour votre orgueil, mettons. Mes frères et mes sœurs, vous savez fort bien, la grande partie de nos difficultés réside, je dirais, ou bien viennent de nos sentiments d'orgueil. C'est par orgueil que nous nous défendons. C'est par orgueil que nous disons des choses que nous ne devrions pas dire. C'est par orgueil que nous voulons, je dirais, avoir ce que nous voulons, alors que parfois, ce que nous voulons avoir n'est pas toujours bon pour nous. Je continue. Verset 6, toujours 1 Pierre 5, verset 6. Il dit, humiliez-vous, voilà le secret. Humiliez-vous, dit-il, l'apôtre Pierre, donc sous la puissante main de Dieu. Non pas de Satan, non pas de vos sentiments humains, non pas de votre nature humaine, pas du tout, mais sous les sentiments, sous la puissance de Dieu, humiliez-vous. S'il y a quelque chose de bon en vous, c'est Dieu qui vous le donne. S'il y a quelque chose de magnifique, si vous avez des talents fantastiques, c'est Dieu qui vous les donne. Donc, il n'y a aucune raison que vous vous enorgueillissiez. Pas du tout. Vos sentiments d'humilité doivent toujours vous permettre de comprendre que tout ce que vous avez, tout ce que nous avons tous, vient de Dieu. Voilà pourquoi Pierre dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous savez, ça c'est beau. Là encore, si vous comprenez l'Évangile, vous comprendrez la raison pour laquelle Pierre dit « au temps convenable ». Voilà pourquoi j'ai dit il y a quelques instants qu'aujourd'hui n'est pas le seul jour du salut. Dieu ne veut pas, ne va pas, ne va, n'a pas à décider de ne pas sauver le monde entier aujourd'hui. Il appelle seulement un certain nombre pour préparer le retour du Christ. Ça, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les premiers convertis, les premiers appelés, si vous voulez, les élus. Mais ils ne sont pas élus ou bien premiers appelés parce qu'ils sont meilleurs que les autres, pas du tout. Aujourd'hui, nous sommes donc appelés pour préparer le retour du Christ. En cela, nous sommes les premiers, mais le moment viendra où tous seront appelés, ça sera après le retour du Christ. C'est à ce moment-là précisément que les yeux des gens seront ouverts. Et c'est à ce moment-là précisément que Satan le diable ne sera plus le Dieu de ce siècle, car il sera enchaîné, il sera éloigné de ce monde. Voilà pourquoi je répète, cette fois-ci, Pierre dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, le temps où vous serez appelés. Ensuite, dit-il, déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Ah, c'est difficile. J'ai des soucis, certes. Je me décharge sur le Christ de mes soucis. Je devrais, mais je ne le fais pas. Pourquoi ? À cause des doutes que Satan met dans mon esprit, ou bien à cause de mes propres sentiments charnels. Si nous, mes frères et mes sœurs, nous puissions vraiment nous décharger de tous nos soucis et les mettre sur les épaules du Christ, comme le Christ a dit dans l'Évangile selon Marc, il me dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du soulagement, du confort. Pourquoi ne nous faisons pas ? Je répète, une partie à cause de notre nature humaine et une grande partie à cause de la séduction que Satan répand en ce bon monde. Satan a tâché de séduire dès le commencement le premier couple. Et il ne se fatigue pas dans sa tâche. Et nous qui sommes faibles, et nous qui nous laissons influencer par ce qui se passe, alors nous pensons que Dieu nous a abandonnés, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, vous savez, quand je lis la Bible comme ça devant vous, des versets que je connais par cœur, c'est tellement facile de voir franchement comment Dieu nous explique la façon de suivre, le chemin à suivre, et pourtant, nous ne le faisons pas. Regardez ce que Pierre écrit, verset 8. « Soyez sobres. » C'est simple. « Soyez sobres. » Sur vos gardes, les veillez. Il dit, « Votre adversaire, le diable, » Il a encore, il explique, « Votre adversaire, le diable, dit-il, rôde comme un lion rugissant. » Une fois encore, je m'arrête. Bon, je veux absolument que vous compreniez. Ce n'est pas une question d'aller trop vite avec ce sermon, parce que ce sermon est extrêmement important pour vous permettre d'arriver au but. Un lion, c'est quoi? Un lion, vous craignez un lion parce que le lion est plus fort que vous. Et si vous avez un lion qui rôde et que vous êtes devant un lion, vous avez peur. Alors, Pierre dit, donc, le diable rôde comme un lion rugissant. Un lion, voyez-vous, ne rugit pas s'il est bien rassasié. Ce sont les lions qui ont faim, qui rugissent. Donc, Satan veut nous dévorer. Et c'est ce que Pierre dit. Cherchant qui il dévorera. Mais ne craignez pas, vous n'avez pas besoin de craindre, je le répète, Dieu est toujours là. Satan ne peut absolument rien faire si vous-même vous vous mettez sous la protection divine. C'est comme un lion, bon, vous mettez un lion dans une cage, il ne peut rien faire. Voilà, donc si vous vous soumettez à Dieu, vous êtes protégé. Et Satan ne peut pas vous toucher. Et Pierre écrit, verset 9, toujours 1 Pierre, chapitre 5, verset 9, « Résistez-vous avec une quoi ? Avec une foi ferme. » Malheureusement, la plupart du temps, nous manquons de foi. Nous pensons avoir foi, mais nous avons peur. Si j'ai foi, je n'ai pas peur. Et c'est vrai. Mais la plupart du temps, nous pensons avoir foi, alors que nous craignons, nous vivons sous la crainte. Moi, je suis comme vous, vous savez, je ne suis pas meilleur que vous. Mais le fait est que nous devons vraiment nous tourner vers Dieu en disant, Dieu, écoute, augmente ma foi. Aide-moi à comprendre, aide-moi à savoir que je n'ai pas besoin de craindre ni l'avenir, ni le présent, ni Satan, ni les démons, ni une maladie, ni une perte, ni quoi que ce soit. Si vous avez cette attitude, cette foi en Dieu, dans ce cas-là, voyez-vous, vous vous mettez sous la direction de Dieu, sous sa protection, et Satan ne peut absolument rien faire. Il dit, résistez-vous, dit-il, avec une foi ferme. Non pas une foi que vous dites, j'ai la foi. Là, vous savez, là encore, souvent nous nous trompons nous-mêmes et nous disons, j'ai la foi. Avez-vous vraiment la foi? Vous pensez avoir foi, vous croyez. Croire n'est pas avoir foi. Soyez sûr que lorsque vous dites, je crois, et que je crois fermement, que vous êtes convaincu que cette foi est vraiment basé sur la volonté de Dieu, sur les principes de Dieu, sur les enseignements de Dieu, sur votre soumission à Dieu. Là, alors, la foi dont vous parlez, ou dont la Bible parle, aura vraiment une influence forte sur lui. Ensuite, il dit, sachant que... écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous souffrez, pensez-vous que vous êtes les seuls à souffrir en ce bas monde? Lorsque vous n'avez pas, mettons, des amis, ou bien une richesse, ou bien des talents, ou bien un travail, ou bien, je ne sais pas, en fait, n'importe quoi qui vous rend triste, pensez-vous que vous êtes le seul? Lorsque vous êtes malade et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, pensez-vous que vous êtes le seul? Lorsque... vous vous dites, moi je ne comprends pas, j'aurais voulu comprendre la Bible, j'aurais voulu me soumettre à Dieu. Pensez-vous que vous êtes le seul? Non? Parce que je répète, ce monde n'est pas à l'heure actuelle sous l'influence directe de Dieu le Père. Certes, Dieu est toujours là, il répond toujours à nos besoins, mais Dieu a permis que Satan soit le Dieu de ce siècle, le petit Dieu de ce siècle, afin que son plan, le plan divin s'accomplisse. Voilà pourquoi Pierre écrit, résistez-lui avec foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà. Ce n'est pas une consolation, je dirais, qui vous rendrait heureux, non. Mais autrement dit, vous n'êtes pas les seuls à souffrir. Les souffrances que vous avez, d'autres les ont aussi. Eux, comme vous, vous pouvez résister, vous pouvez surmonter ces souffrances, surmonter vos doutes, si vous avez pour guide, non pas vos sentiments d'orgueil, non pas Satan le diable, mais le Créateur suprême, Dieu et le Christ. Comparez ce que je viens de vous dire avec Jacques, chapitre 4, versets 6 à 10. Là encore, je voudrais vous citer et en même temps expliquer. Jacques, chapitre 4, versets 6 à 10. Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi, dit-il, l'Écriture dit, Dieu résiste. Regardez voir ça. Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. C'est ça le titre de mon sermon, si vous voulez. Évitez l'orgueil. L'orgueil vous ruine. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Voyez-vous, je dirais, c'est ici la fin de mon sermon. C'est ça. Avec ce seul verset, vous pouvez comprendre ce qui se passe, la raison pour laquelle nous souffrons, et pourquoi le diable aujourd'hui a la main forte, parce que il nous influence par des sentiments d'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est la base. Avec l'humilité, nous n'avons pas besoin de craindre Satan. Avec l'humilité, nous n'avons pas besoin de craindre l'avenir. Avec l'humilité, nous pouvons avoir la foi ferme qui nous protège contre tout ce qui est mal ou mauvais. Commencez-vous à comprendre. Et Pierre dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pensez-y, songez-y. L'adversaire, un lion qui rôde, un lion qui rugit, est devant vous et Dieu dit, n'ayez pas peur, il n'a pas de force. Et c'est vrai, c'est la vérité. Donc, Satan n'a absolument aucune force. Lorsque vous avez comme bouclier l'éternel Dieu, la foi, l'évangile et votre soumission à Dieu. Autrement dit, lorsque vous vous approchez de Dieu, Satan fuira loin de vous. Fuira. Au lieu que vous fuyez devant lui, c'est lui qui fuit. Et Pierre explique, approchez-vous donc de Dieu. Il y a une différence. Vous vous approchez de Dieu, il s'approche de vous, et Satan s'éloigne de vous. Mais plus vous vous approchez de Satan, plus vous vous éloignez de Dieu. C'est le contraire que nous voulions faire. Nous voulions nous approcher de Dieu, et Dieu s'approchera de nous. Ensuite, une fois encore, Pierre nous dit comment. Nettoyez, dit-il, vos mains. Pécheurs, nous sommes tous pécheurs. Aucun homme sur cette terre n'a jamais été pur en ce qui concerne Dieu. Cette nature humaine, sous l'influence de Satan, nous permet justement d'aller du mauvais côté. Nous sommes tous pécheurs. La Bible dit que tout homme a péché. Tous. Sauf le Christ lorsqu'il était sur cette terre. Donc, nous sommes tous pécheurs. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est le péché? Nous le savons, c'est la transgression des lois divines. Donc, pour cesser d'être pécheur, vous commencez à respecter les lois divines, un point, c'est tout. C'est facile à dire, je sais, mais ce n'est pas seulement question de facile à dire, mais c'est aussi question de savoir que c'est possible, car c'est Dieu qui vous donne cette force, c'est Dieu qui vous donne cette compréhension, et c'est Dieu qui vous donne la foi ferme dont vous avez besoin pour agir de cette façon-là. Donc, je continue, soumettez-vous à Dieu, approchez-vous de Dieu, et nettoyez vos mains, etc. Purifiez vos cœurs, verset 8, homme irrésolu. Vous savez, ce mot, ça m'intéresse aussi. Moi, j'aime jouer avec les mots. Résolution, vous avez une résolution. Donc, si vous avez pris une résolution, c'est quelque chose que vous savez que vous devez faire, vous le ferez. Mais si vous ne faites pas ça, vous êtes quoi? Vous êtes irrésolu. Autrement dit, c'est vide. C'est comme ne pas avoir foi. Si nous avons cette attitude de nous approcher de Dieu, nous ne devons pas être irrésolus. Et pourtant, souvent, nous nous comportons en tant que des êtres irrésolus. Et voilà pourquoi nous avons peur. Voilà pourquoi nous craignons. Voilà pourquoi nous doutons, voilà pourquoi nous avons des sentiments charnels qui ne sont pas justifiés, franchement parlant, si nous sommes véritablement chrétiens. Souvent, lorsque vous parlez avec un enfant, et vous dites à un enfant ce qu'il faut faire, et vous savez que l'enfant, la plupart du temps, ne vous écoute pas parce qu'il a ses propres sentiments. Mais si vous êtes un père ou une mère digne de ce nom, vous répétez, vous enseignez, vous montrez, afin que l'enfant commence à comprendre. Dieu est notre Père. Dieu répète la même chose dans la Bible, afin que nous comprenions. J'ai souvent parlé à des gens, des intellectuels, si vous voulez, ils disent, mais pourquoi est-ce que la Bible répète la même chose? Que eux, ils auraient pu couper la plupart du temps, mettons des phrases qui ne sont pas nécessaires à leur avis, et que vous auriez pu réduire les pages de la Bible, mettons de moitié ou bien même de trois quarts. C'est possible. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a voulu répéter les choses dans la Bible afin que vous et moi, nous comprenions, car nous avons de la tête dure. Nous sommes comme des enfants, et voilà pourquoi nous sommes irrésolus. Voilà pourquoi Pierre répète une fois encore, il dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, vos péchés, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 10, humiliez-vous, ça commence, voyez-vous, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Là, pour moi, c'est une vérité magnifique. D'une façon générale, les êtres humains, vous et moi, nous sommes orgueilleux et nous pensons mériter plus que ce que nous avons. Nous pensons avoir plus que nous devrions avoir, mettons. Autrement dit, nous voyons un peu maltraités par Dieu, pour ainsi dire. Le fait est que Dieu nous a bénis, tous. Nous méritons tous beaucoup plus que nous avons. Et souvent, je le répète, nous nous penchons sur nous-mêmes, sur notre orgueil. Nous nous défendons par orgueil. Nous voulons avoir raison par orgueil. Lors d'une discussion, nous voulons que les gens disent « Oh, vous avez raison, les autres ont tort ». Tout ça, ce n'est pas nécessaire. Si vous êtes humble, si vous vous laissez agir sous l'influence divine, avec humilité, Dieu vous élèvera. Ça, c'est la vraie récompense. Mais, je répète, nous devons nous débarrasser autant que possible de nos sentiments d'orgueil. Mes frères et mes sœurs, vous savez, mais soyez honnêtes. Lorsque vous priez, examinez-vous vous-même. Quels sont les sentiments que vous avez qui sont fondés sur l'orgueil? Lorsque vous avez une discussion avec votre prochain, ou même, mettons, les membres de votre famille, votre femme, votre mari, vos enfants, quels sont les sentiments qui vous dictent dans ces discussions? Et vous verrez que la plupart du temps, ces sentiments sont fondés ou bien reposent sur l'orgueil, sur la vanité, sur vous défendre, sur vous protéger, protéger que vous n'êtes pas si mauvais que ça, ou même peut-être que vous êtes meilleur que les autres. Vous savez, pourquoi Satan a du succès aujourd'hui? Parce que sa plus grande faiblesse, son plus grand péché, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui a fait tomber Satan là où il était. Parce que Satan, au commencement, n'était pas vraiment un être comme il est aujourd'hui. Il avait tout. Il était grand, il était fort, il avait tout ce dont on peut jouir. Il était un archange sous Dieu. C'est ça, Satan. Son nom, Satan, est la conséquence de ce qui s'est passé. Au commencement, c'était un astre de lumière. Lumière, autrement dit, Lucifer. C'est ça le nom de Satan au commencement. Mais, comme vous pouvez voir, il est devenu l'adversaire de Dieu. Pourquoi? Il a tout perdu. Pourquoi? Il a vraiment perdu toute sa sagesse, toute sa beauté, toute son intelligence. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, surveillez vos sentiments. Débarrassez-vous de cet orgueil et vous vous débarrassez de cet orgueil en vous approchant de Dieu davantage, en vous rendant humble, même devant votre prochain. Notez comment la Bible décrit en ce qui concerne Satan le diable au commencement. Vous savez, ce monde qui existe aujourd'hui, ce monde où nous vivons, n'a pas été créé il y a 6000 ans, pas du tout. Là encore, les gens qui ne comprennent pas la Bible, ils disent que Dieu a créé Satan, le premier couple, depuis 6000 ans. Non. Le premier couple, oui, mais le monde, pas. Ce monde où nous vivons, cette terre existe depuis des milliards d'années, je ne sais. Mais le premier couple, d'accord, a été créé sur cette terre depuis 6000 ans. Ça, nous sommes d'accord. Mais à ce moment-là, ce monde cette terre où nous vivons, il a déjà eu une histoire, si vous voulez. Cette terre où nous vivons était occupée avant la création de l'homme par d'autres êtres, pas des êtres humains, pas des êtres physiques. Cette terre était occupée par des anges de Dieu. Vous direz, monsieur Apporteur, vous commencez à faire la plaisanterie. Non, ce n'est pas une plaisanterie. Si vous croyez à la Bible, c'est ce que la Bible dit, notez-le. Notez-le, je veux répéter, je veux expliquer afin que vous compreniez. Regardez voir comment Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui a décrit la création de l'homme, qui a décrit la création de l'univers, qui a même décrit dans sa prophétie ce qui s'est passé, ce qui va se passer, et même l'avenir tout entier. Ésaïe décrit en ce qui concerne la vie de Lucifer, qui est devenu Satan. Ésaïe 14. Donc je répète, à ce moment-là, Lucifer était un astre brillant, en charge de tous les anges, sous Dieu, et il était sur cette terre, gouvernant tout. Autrement dit, c'est un être extrêmement intelligent, sage. Laissez-moi d'abord décrire ce qu'Ésaïe dit. Il dit, « Te voilà tombé, dit-il, du ciel. » Donc, cette tête est tombée. « Astre brillant, voilà votre Lucifer. Fils de l'aurore. » Cette grandeur. « Tu es abattu, dit-il, là, tu as été abattu de la terre. Toi, le vainqueur des nations. » Vainqueur des nations, ce qui concerne par la suite. Tu disais, verset 13, notez-le, Ésaïe 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, dit-il, je monterai au ciel. Voilà ce sentiment d'orgueil. Vous voulez être plus grand que les autres. Vous pensez toujours mériter davantage. Et Satan qui avait tout, autrement dit, on ne peut pas espérer plus que ce qu'il avait. Il avait tout. Et il voulait davantage. Il dit, tu disais en tant que Dieu, je monterai au ciel. Parce que au-dessus de lui, il n'avait qu'un autre être. C'était Dieu le Père. Donc, il voulait être égal à Dieu le Père. Je lèverai mon trône, verset 13, au-dessus des étoiles de Dieu, des étoiles de Dieu, ou d'autres, des anges, si vous voulez. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée. La montagne, c'est le gouvernement de l'Assemblée, écoute, l'Assemblée de Dieu. À l'extrémité du septentrion, c'est là où le trône de Dieu se trouve. Voilà, c'est étrange. Il a tout, et il veut, encore davantage, il veut être Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez deviner. Étudiant ton cœur, verset 14, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Verset 14, Ésaïe 14, 14. Satan, Lucifer à ce moment-là, il veut être égal à Dieu le Père. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 15, tu as été précipité dans le séjour des morts. Voyez-vous, Dieu est fort, on ne peut pas résister à Dieu. Dieu a toute la force, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Satan, je le répète, vous verrez encore, ne peut absolument rien faire sans Dieu ou bien contre Dieu. Donc Dieu l'a précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Je dis, nous sommes dans l'Église, nous connaissons ces choses, prenez le temps d'étudier, mais lorsque vous êtes, je dirais, les victimes de vos sentiments d'orgueil, pensez à ces choses-là. Et regardez voir comment l'orgueil vous conduit à la ruine. Par contre, comment l'humilité vous conduit à la gloire. Ça, c'est le secret. Je dirais, recit que je viens de vous citer ici, se trouve également dans Ézéchiel. Comme vous savez, dans la Bible, il y a les prophètes, les mineurs et les majeurs. Les majeurs sont Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie. Mais Ézéchiel parle aussi de cette même incident, de ce même incident. Ézéchiel parle exactement comme Ésaïe a parlé, mais Ézéchiel parle parce qu'Ézéchiel parle surtout de l'histoire humaine, il prend un roi à l'époque et il compare ce roi à la situation de Lucifer qu'il avait auparavant. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas voir que ce verset que je vais vous citer maintenant se rapporte en double sens. Sens humain sur cette terre en tant que roi et sens spirituel dans le sens que ce même verset se rapporte aussi à Satan le diable. Notez-le. Ézéchiel, chapitre 28, verset 12. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ainsi parle l'Éternel. Tu mettais le sort de la perfection. Voyez-vous, maintenant on commence à venir sur la description de Lucifer. Tu mettais la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. On ne parle pas ici à un homme. On prend un homme en tant que type, un roi à l'époque. Mais ici, Ézéchiel donc dit la même chose qu'Ésaïe. Tu étais en Éden, voyez-vous. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Paradis, jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ensuite, il dit de sardos, de topaz, de diamants, de chrysolite, je ne sais pas quoi, de saphir. Autrement dit, on ne peut pas demander davantage. D'émeraude, tes tambourins étaient fluides, étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Avez-vous entendu ce que je viens de lire? Les questions de Lucifer, qui avait tout, archange. Mais Dieu dit où tu fus créé. Donc Lucifer est une création. Les archanges sont des créations. Ils ne sont pas des êtres immortels, dans le sens qu'ils ont toujours existé. Certes, ce sont des êtres spirituels aujourd'hui, mais ils ont été créés, il y a un commencement. Donc ces êtres-là, ici vous pouvez voir que Lucifer avait tout en beauté, était dans le paradis. Et le jour te fut créé. Ensuite, 14, tu étais un chérubin. Voyez-vous, maintenant, on entre à nouveau dans le vif du sujet. Il ne parle pas ici du roi de Tyr. La Bible parle ici, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais dit sur la sainte montagne de Dieu. Voyez-vous, on ne peut pas être plus clair. Satan était placé sur la montagne de Dieu, autrement dit, dans le gouvernement de Dieu, une haute position. Il était en charge de tous les anges qui étaient sous Dieu. Voilà ce qu'il avait. Mais l'orgueil, là, lui a fait perdre tout cela. Il dit, je t'avais placé donc sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Comme il y a surtout de femmes aujourd'hui, voudraient avoir des bijoux et marcher dans des pierres étincelantes. Je plaisante. Autrement dit, nous voulons tous être riches, très riches, des nababs, si vous voulez. Eh bien, humainement parlant, Satan avait tout ce qu'il voulait avoir, Lucifer plutôt, toutes sortes de bijoux, toutes sortes de richesses. Qu'est-ce qui se passe? Tu as été, verset 15, intègre dans tes voies. Là encore, c'est intéressant. Autrement dit, au moment de la création, Lucifer était intègre dans ses voies. Depuis le jour où tu fus créé, dit-il, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alors, ça commence maintenant l'histoire de Satan, l'histoire de Lucifer. L'iniquité a été trouvée chez Lucifer lorsqu'il a commencé à envier Dieu, être égal à Dieu, être comme Dieu. Autrement dit, tous ces avoirs ne lui suffisaient pas. Il veut avoir plus, être au contrôle. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli, verset 16, de violence. Je te précipite de la montagne de Dieu. Voyez-vous, Dieu l'a dégradé. Je fais disparaître le chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Vous savez, c'est triste d'avoir tout et ensuite tout perdre. Là, Lucifer était au milieu des pierres étincelantes, de toute la gloire qu'on puisse espérer. Tout perdu. Disparu. Ton cœur s'est, verset 17, élevé à cause de ta beauté. Oui, beauté physique ou intérieure. Tu as corrompu la sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, dit-il, je te livre au spectacle, au roi. Et c'est là maintenant qu'il vient, en même temps, roi de Tyr et aussi à Lucifer. Voyez-vous, mes frères amis, mes frères et mes sœurs, ce monde se trouve aujourd'hui, depuis ce moment-là, depuis la création de l'homme, sous l'influence de Satan. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce monde est toujours sous l'influence de Satan, le roi est toujours de ce monde et Satan, parce que Dieu a confié ce monde angélique à l'époque, ensuite au commencement de la création du premier couple, sous l'influence, sous la domination de Satan. Dans le plan divin, Satan sera remplacé par un autre être spirituel qui pourra vraiment cette fois-ci tenir bon, ne pas succomber à l'orgueil. Ça sera le Christ. Satan sera remplacé, détruit, pour ainsi dire, entre guillemets, éloigné de ce monde, lorsque le Christ reviendra et prendra en charge totale le gouvernement divin sur cette terre. Commencez-vous à comprendre, mais dans les où tous ces versets commencent à devenir réels. Autrement dit, ça dit quelque chose. À l'heure actuelle, Satan est toujours encore le Dieu de ce siècle et il fait tout son possible pour se défendre. Autrement dit, regardez autour de vous. Le cinéma, c'est quoi? Le théâtre, c'est quoi? Les livres sont quoi? Autrement dit, tout ce qui est même la récréation humaine, c'est toujours fondé, basé sur l'orgueil, sur les sentiments humains, sur la corruption. Et tout a été totalement corrompu, bouleversé. Voilà pourquoi Satan, le Dieu, Satan est le Dieu de ce siècle. Aujourd'hui, quel est le moyen le plus fort d'influencer les gens? Pensez-y. Comment vous pourriez aujourd'hui influencer quelqu'un? Eh bien, par la propagande, comme à l'époque de Hitler. Voyez-vous, quel est le moyen de propagande le plus fort? Média. Autrement dit, la radio, la télévision, la presse, si vous voulez, les livres, autrement dit, tout ce qui est média peut vous influencer. Vous lisez un article, un journal, vous y croyez. Vous entendez des nouvelles à la radio, vous y croyez. Vous entendez, mettons, un talisman, un remède, je ne sais pas quoi, vous y croyez. Donc, tout ça, ce sont des outils extrêmement importants pour séduire les gens, et Satan est au contrôle du média. Et c'est vrai. Voilà pourquoi aujourd'hui, sous l'influence de Satan, le média est tout à fait corrompu. Regardez voir ces annonces, la publicité que l'on fait. La plupart du temps, il s'agit de mensonges. Mais les gens y croient. Donc, Satan, aujourd'hui, contrôle ce monde par les médias et nous en sommes en quelque sorte des victimes. La radio, la télévision, tout ce que vous voulez, le cinéma. Voilà pourquoi ces choses-là sont corrompues. Ces choses-là sont fondées sur la convoitise humaine. Vous savez, on vous présente, mettons, une voiture, une belle voiture. C'est beau d'avoir une belle voiture, si vous pouvez vous la payer. Alors, la belle voiture vous est vendue avec une femme là-dedans, une très jolie femme. Mais la femme n'a rien à faire avec la voiture. C'est pour vous faire appel à vos convoitises, à vos sentiments de convoitise. Voilà, ce genre de publicité, voyez-vous, c'est influencé par Satan. Voilà pourquoi ce monde, je répète, sous l'influence de Satan, est vraiment au bord de l'abîme. Orgueil s'ensuit. Écoutez, mes frères et mes sœurs, nous qui sommes dans l'Église, nous savons ces choses. Et pourtant, nous nous laissons aussi influencer par les médias. Nous nous laissons influencer par la fausse propagande. nous le laissons influencer même par des gens qui disent « la loi n'existe plus, l'Ancien Testament est assez ancien ». Tout ça, c'est de la mauvaise propagande. C'est du mensonge. Et beaucoup y croient. Voilà pourquoi Dieu a aveuglé les yeux des gens, pour qu'en connaissant ces choses, en apprenant ces choses, ils ne se laissent pas succomber par le mensonge, et rebeller contre Dieu, rebeller contre la volonté de Dieu, et perdre le salut éternel. Alors nous en sommes, la convoitise humaine, nous en sommes les esclaves. L'orgueil satanique, influencé par Satan, mis dans notre nature humaine, par ce que nous voyons, tout ça nous dirige vers la perte, vers la ruine. À moins que nous nous tournions vers Dieu, je répète, tout cela va nous conduire à notre propre destruction. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Depuis la création du premier couple, nous avons eu, je ne sais pas, je pense que quelqu'un a estimé 12 ou 14 000, je ne me rappelle plus, guerres sur cette terre. Depuis 6 000 ans, vous avez 12 ou 14 000 sur cette terre, de grandes et de petites. À de notre vivant, ces derniers temps, à peu près dans 100 ans, nous avons eu deux guerres mondiales qui ont fait 130 millions de morts. Mais pourquoi ? Parce que ce monde se trouve sous l'influence de Satan. Donc, l'outil important, je veux dire, c'est les médias. Aujourd'hui, surtout, prenez l'Internet. Écoutez, c'est bon l'Internet, on peut faire beaucoup de choses, mais Internet peut aussi être un outil meurtrier. Regardez les enfants. Un enfant de 5 ans aujourd'hui peut ouvrir ou consulter, si vous voulez, voir l'Internet, apprendre tout ce qui est sale, dégoûtant, pornographie, tout ce que vous voulez. Parce que c'est à sa disposition. Et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi lorsque le Christ viendra, tout ça va disparaître, voyez-vous. Ça sera un monde différent. Mais pour en revenir à ce que je disais en ce qui concerne où nous en sommes aujourd'hui, nous avons eu deux guerres mondiales. J'étais en France, en Suisse plutôt, lors de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai vu les souffrances humaines. Heureusement, Dieu m'a protégé, d'accord, mais j'ai vu ce que c'est que souffrir là. Et j'ai entendu, j'ai même visité plus tard ce qu'on appelle l'Holocauste, ou ces affreux camps de concentration. J'en ai vu un seul, ça me suffisait. Et aujourd'hui, imaginez, les gens, il y a des livres qui disent « Oh non, l'Holocauste n'existait pas. Non, il n'y a pas eu 5 millions d'êtres humains, principalement, surtout juifs, qui ont été massacrés, brûlés vifs. » Non, non, non. C'est encore sous l'influence satanique que ce genre de propagande se fait. Ce que nous avons vu, c'était réel. Et ça va se répéter. Voyez-vous, je vous parle de la bonne nouvelle. Je vous parle de l'Évangile. Évangile signifie bonne nouvelle. Comment est-ce que je peux parler de bonne nouvelle alors que je vous parle de l'Holocauste? Parce que la Bible vous dit exactement ce qui va se passer. L'Holocauste n'avait pas besoin d'arriver si les gens ne s'étaient pas laissés influencer par l'orgueil, la vanité, par les instruments de Satan. Je vous parle de cela tout en proclamant la bonne nouvelle, parce que regardez voir ce que le Christ a dit. Le Christ, dans l'Évangile selon Matthieu, il a justement parlé de ce que je vous dis aujourd'hui. Il a parlé de la bonne nouvelle, il a parlé de son retour. Il a parlé en disant que lorsque le Christ viendra, ce monde va changer. Mais le Christ nous a mis en garde contre plusieurs choses, dont le commencement était, et du prenez garde. Laissez-moi vous citer quelques versets de Matthieu 24. Automatiquement, voyez-vous, ça vous ouvre déjà l'esprit. Le Christ qui parle de son retour dans Matthieu 24, le Christ Christ dit ce qui va se passer. La première chose qu'il vous dit en tant que mise en garde, notez-le, il vous met en garde contre les faux prophètes. Vous n'avez qu'à lire, lisez, vous verrez que le commencement donc de ce qu'il dit ici, il vous dit, écoutez, prenez garde. Je vous citerai le verset plus tard, mais ensuite il saute, il dit au verset 20, Matthieu 24, verset 20, il dit que votre fuite n'arrive pas en hiver. Il parle maintenant de la fuite dont je vous parlerai plus tard dans un autre sermon, que l'Église sera protégée. Il dit, lorsque le Christ viendra, lorsque Satan sera en rage, regardez-moi ce qu'il dit, verset 21, je parle maintenant des guerres, de la guerre finale. Verset 21, « Car alors, dit-il, la détresse sera si grande qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Ça veut dire quoi, ça? Les 12 000 guerres dont je vous parlais ne sont rien à comparer à ce qui va se passer. Les deux guerres mondiales dont je vous parle ne sont rien à comparer à ce qui va se passer. Car de Christ dit, ces jours-là, dit-il, seront terribles, comme jamais nous n'avons jamais eu de pareil. Il dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Voilà où nous en sommes. Et le Christ nous met encore, voyez-vous, Dieu nous aime. Dieu nous révèle la vérité. Dieu nous dit ce que nous devons faire pour être protégés. Nous sommes dans l'Église, nous comprenons ces choses. Mais regardez autour de vous, aidez ceux qui ne comprennent pas. Pas en tâchant de les convertir, non, mais en tâchant de les soulager. Que Dieu est bon, que Dieu est juste, que Dieu est fidèle. Que Dieu nous met sur le bon chemin. Et le Christ dit, si ces jours n'étaient abrégés, donc personne ne serait sauvé. Personne ne serait vivant. Le plan divin serait disparu, mais ces jours seront abrégés car le Christ reviendra. Mais dit-il, entre-temps, ça c'est intéressant, regardez-moi autour de vous. Les gens aujourd'hui parlent du Christ avec toutes sortes de mensonges, sous l'influence de Satan. Je dis, c'est incroyable. Il y a je ne sais pas combien de religions, il n'y a plus de religions que de nations et de loin. Mais le fait est que les gens vous présentent sous l'influence de Satan, un faux Christ. Il dit, le Christ a dit, si quelqu'un vous dit, verset 23, Matthieu 24, verset 23, vous dit, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. C'est lui qui parle. Ouvrez la radio ou bien la télévision un dimanche matin, vous verrez. Il y a toutes sortes de mensonges au sujet du Christ. Et le Christ dit, ne le croyez pas. Il dit, car dit-il, verset 24, Matthieu 24, 24, il s'élèvera de faux Christ. Eh oui, pas de Christ, mais de faux Christ, sous l'influence de Satan. Il s'élèvera de faux prophètes. Je vous ai parlé lors de mes derniers sermons des prophètes. Je vous ai parlé d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, des petits prophètes. Ça, c'est des prophètes, de vrais prophètes. Mais le Christ ne parle pas de ça. Il parle de faux prophètes. Et vous en avez aujourd'hui. La télévision vous en montre, la radio vous en montre. Vous direz, et vous? Eh bien, d'accord, moi-même, je peux être faux prophète si vous ne vérifiez pas ce que je vous dis. Je serais faux prophète, voyez-vous, si je vous disais contrairement à ce que la Bible dit. Mais je vous déclare la vérité. Comparez tout ce que je dis à ce que déclare la Bible. Ce faisant, voyez-vous, vous pouvez voir où sont les prophètes de Dieu, où sont ceux qui enseignent la parole. Une fois que vous avez compris ça, mes frères et mes sœurs, ou mes amis si vous voulez, vous verrez que aujourd'hui, c'est le moment où Satan est en train de séduire tout le monde avec sa fausse propagande, de faux prophètes. Et même le Christ dit, ils feront même quelques-uns de ces gens-là de grands prodiges, des miracles. C'est un miracle. À l'époque des Israélites, les charlatans celui qui faisait des miracles sous l'ampe de Pharaon, pouvait aussi faire des miracles. Lorsque Moïse a fait des miracles par la force divine, et les charlatans à l'époque, qui étaient donc ces magiciens, pouvaient aussi imiter quelques-uns de ces miracles. Donc, ces faux prophètes sous Satan peuvent faire des miracles, pas de vrais miracles, des faux miracles dans ce sens qu'il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de réalité. Mais le fait est que beaucoup de gens vont se laisser séduire, justement par ces faux prophètes. Le Christ dit, voici, dit-il, verset 25, je vous l'ai annoncé d'avance. Je vous ai souvent dit, et je le répète, Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé la raison pour laquelle il fait les choses. Dieu ne punit jamais personne sans lui avoir révélé la raison pour laquelle cet individu souffre. La raison même pour laquelle nous souffrons, c'est parce que nous péchons. C'est une loi, je dirais, permanente et logique. Cause à effet. Si je laisse tomber quelque chose, cette chose tombe. La loi de l'apesanteur. Si j'arrête de souffler, ou bien, je dirais, si respirer, je meurs. Si je ne mange pas, en fin de compte, je meurs de faim, ainsi de suite. C'est cause et effet. Donc c'est ça, je dirais, la cause même de nos souffrances, transgression des lois. Lorsque vous transgressez une loi quelconque, vous souffrez. Et la fin de la souffrance, c'est la mort. Voyez-vous, je n'ai pas terminé ce sujet. Je voulais aller beaucoup plus loin avec ce sujet. Je voulais parler, et je vais parler, je pense que je vais continuer ce sujet parce que je n'ai pas fini, loin de là. Je vais vous montrer comment Satan continue aujourd'hui encore à séduire les gens. Comment Satan commence à faire comprendre à tout le monde qu'il est, lui, victime lui-même de circonstances, alors qu'il est l'auteur de nos misères sur cette terre. Avant de terminer, laissez-moi vous dire une chose. Croyez au Christ. Incroyable ce que le Christ dit. Et laissez-moi terminer donc avec une mise en garde fantastique que le Christ nous donne. Je dis, je vais continuer ce sujet, mais regardez voir comment le Christ nous dit de nous protéger contre Satan le diable. Je vous ai déjà montré de plusieurs façons, mais maintenant le Christ nous donne ce même avertissement d'une façon beaucoup plus, je dirais, dramatique. Simple. D'une façon que même un enfant peut comprendre. Jean, chapitre 8, versets 30 à 32. Voilà comment le Christ nous aide à marcher de façon à être protégé par lui et ne jamais craindre Satan le diable. Jean 8, versets 30 à 38. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, » très bien, la Bible, c'est la parole de Dieu. Les vérités bibliques, ce sont la parole de Dieu. Il dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous connaîtrez la vérité, vous pouvez connaître la vérité seulement lorsque vous étudiez la Bible, seulement lorsque vous vous soumettez à ce que la Bible révèle. Et le Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.